Bonjour à tous. Ravi de vous voir. Un membre de la famille a visité le campus cette semaine et il a été époustouflé par ce qu'il a vu. Je pense qu'entre les arbres, les fleurs et les arbustes, c'était juste, on se faisait poivrer, mes fils et moi on se faisait poivrer avec tant de questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment avez-vous fait cela? Depuis combien de temps cela existe-t-il? C'était vraiment merveilleux de voir. Je viens juste de me rappeler, et je vais prendre un moment pour le faire maintenant, pour vous tous, de me rappeler que le campus fait le travail, et c'était comme cela à Pessodina. Vous savez, plus de gens verraient le campus, l'extérieur, que l'intérieur des bâtiments. Et c'était juste un rappel pour moi. Personnellement, de combien le campus de Dieu fait le travail. Il prêche même l'évangile. Vous pouvez penser à ce qu'est l'évangile? C'est le royaume de Dieu qui vient. Donc, nous avons des conditions semblables à celles du royaume ici sur le campus, et c'était juste un très bon rappel. Alors j'ai pensé que je t'encouragerais avec tout cela, tout comme j'ai été encouragé. Eh bien, quand était la dernière fois que vous avez eu la nourriture qui était fade? Pas de saveur, pas de goût. J'ai des souvenirs d'aller au barbecue. Et l'un des points forts d'un barbecue est le barbecue. Et vous allez manger, vous voyez tous les aliments sur le grill, que ce soit du poulet ou des hamburgers, quoi que ce soit, et vous salivez, ne peut pas attendre. Vous avez votre assiette, votre boisson, vous êtes prêt à partir. Donc tu prends la nourriture, tu retires la viande du grill, tu la mets dans l'assiette, tu mords dedans et tu commences à mâcher. Et vous êtes juste en attente pour cette saveur qui ne vient tout simplement pas. Vous tirez des regards sur le cuisinier, et j'espère, vous n'étiez pas le cuisinier. Mais la viande n'a pas de saveur. C'est juste de la chair. Et vous la mâchez et la mâchez et la mâchez et la mâchez. Vous entrez dans une pièce, et vous savez, une pièce, quatre murs, mais quand vous entrez, les murs sont tout simplement blancs. Il y a peut-être peu de mobilier ici et là, mais il n'y a pas de photos sur le mur. Il n'y a pas de fleurs. Il n'y a tout simplement pas de couleurs. Vous entrez dans la pièce, et c'est comme, ah. Ok, c'est une pièce. Il n'y a pas de coup de pied, non, rien à cela. Vous allez assister, peut-être, à un discours ou à une conférence, ou quelque chose du genre, quelqu'un que vous avez hâte d'entendre, et après les premières phrases, il n'y a tout simplement pas d'énergie, pas d'enthousiasme. Ils sont monotones, et vous vous dites, ça va être ennuyeux. Ça va être mauvais. Votre esprit commence à errer, vous commencez à regarder votre montre, en espérant qu'il ne vous voit pas regarder votre montre. Mais c'est juste, il n'y avait tout simplement pas d'énergie. C'est juste, d'accord, oui, c'est un discours, et vous savez, c'est ce que c'est. Mais il n'y a pas de coup de pied, il n'y a pas de pop. Et certaines choses dans la vie sont comme cela. Ils ne sont pas vraiment remarquables, pas de flash, pas de pop. Comme je l'ai dit, non, pas d'énergie, pas de passion. Qu'en est-il de nos prières? Qu'en est-il de nos prières? Nos prières, vos prières, mes prières, sont-elles fades? Sont-elles austères? Sont-elles peu énergivores? Manque-t-il de passion? Manque-t-il de force motrice? Dieu, après que nous nous soyons levés de la prière, dit-il, vous espérez que non. Quand nous nous agenouillons pour prier, est-ce qu'il regarde sa montre? Ça va être mauvais. En s'amusant avec cela, je suis sûr que Dieu n'a pas besoin de regarder sa montre. Mais vous comprenez, c'est un peu comme, ou, voici, à quoi cela va ressembler. Frères et sœurs, je veux utiliser le temps d'aujourd'hui, et je vais rester très simple, Mais je veux utiliser le temps d'aujourd'hui pour nous dire comment énergiser nos prières. Ma tâche aujourd'hui n'est pas de vous convaincre de prier. Je n'ai pas à me tenir ici et à vous encourager, et à vous convaincre tous des bienfaits de la prière et du fait que vous devriez prier. Je n'ai pas à faire cela. Tournez-vous vers Matthieu 6. Matthieu 6. Je sais déjà que vous priez. Matthieu, chapitre 6, il suffit de lire le début d'un verset ici. Matthieu, chapitre 6 parle beaucoup de la prière, et c'est Christ. Matthieu, chapitre 6, nous commencerons au verset 5, et quand vous priez. Maintenant, ce sont quelques mots puissants là, mais dans le contexte, il va donner quelques instructions. Mais l'hypothèse, tout de suite, c'est quand vous priez, tout le monde à qui je parle, tout le monde en dehors de ces murs, l'Église de Dieu, vous priez tous. Dieu sait que vous priez. Je sais que vous priez. Donc ma tâche aujourd'hui, mon but n'est pas de vous convaincre de prier. Il ne me faudrait pas tout un sermon, vous savez, pour faire cela. Vous savez prier, et vous avez entendu des messages sur la prière, au fil des ans. Ce n'est pas ma tâche aujourd'hui. Descendons à Matthieu, ou au verset 9. Lisons ce qu'on appelle la prière modèle. Très bien, Matthieu 6, 9. Il est dit, priez donc de cette manière, notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Maintenant, je n'avais pas juste à vous lire cela, vous l'avez pratiquement mémorisé. Je suis sûr que vous le savez juste du haut de votre tête. Je l'ai probablement déjà dit, mais avant d'aller à l'école, chaque matin, je récitais cette prière. Et je la récitais dans une église locale, et si vous la récitiez et lorsque vous la récitiez sans erreur, vous obteniez un beignet gratuit. Alors parlez d'incitation. Je pense que c'était comme un beignet glacé aussi. Et mes fils adorent les beignets, probablement parce que j'ai mangé tellement de beignets, pour avoir dit cette prière. Mais nous devions y aller et nous la récitions. Mais vous connaissez tous la prière, vous l'avez mémorisée, vous en connaissez toutes les composantes. Je n'ai pas à, vous savez, vraiment frappé que, vous savez, très, très dur aujourd'hui parce que vous êtes déjà, vous le faites déjà. Nous savons comment prier, et nous connaissons même les composantes de la prière. Il est bon de le rappeler, et vous avez des gens à des durées différentes dans l'Église, mais en général, nous le savons tous. Nous le savons tous. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant de savoir prier et de connaître le général, ses composantes générales? Par exemple, nos prières sont-elles assez efficaces pour nous permettre de surmonter la tentation? Nous sommes en proie à la tentation, nos prières sont-elles assez efficaces pour faire une différence? Luc 22. Nous le relèverons dans le verset 44, Luc 22, verset 44, « Étant dans l'agonie, lui, c'est-à-dire Christ, pria avec plus d'ardeur, et sa sueur fut comme de grandes gouttes de sang tombant à terre. Et quand il se leva de la prière, et était venu à ses disciples, il les trouva endormis de tristesse, et il leur dit que, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. » Alors son but était de prier, sinon vous allez entrer en tentation. Maintenant, j'ai eu l'occasion de conseiller des membres qui peuvent être aux prises avec un problème, ou aux prises avec certaines tentations dans leur vie, ce pourrait être juste des convoitises, certaines convoitises, ou simplement des désirs, ou des choses qu'ils savent qu'ils ne devraient pas faire. Et nous sommes tous passés par là, nous avons tous nos faiblesses. Ils savent qu'ils ne devraient pas le faire, et c'est comme, quand j'arrive dans le moment, je suis tellement submergé, et c'est comme si je ne sais pas quoi faire. C'est comme s'il y avait ce pouvoir qui me dépasse presque et que je ne peux pas m'en empêcher. Eh bien, je leur ai conseillé à de nombreuses reprises, que lorsque cela se produit, priez. Priez. Laissez tomber. Eh bien, cela dépend, selon l'endroit où vous êtes, tombez à genoux et suppliez Dieu de vous aider à ce moment. Donc dans ce cas, cette prière est-elle assez forte, est-elle suffisante pour pouvoir annuler cette tentation qui vous a vaincu? À quel point êtes-vous confiant après avoir prié? Nous pouvons prier avec tous les éléments qui entrent en elle, et nous connaissons la structure de celle-ci, nous avons le modèle, mais quand nous avons fini, dans quelle mesure nous sentons-nous en sécurité à propos de cette prière? 1 Jean 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. D'abord Jean, chapitre 5, verset 14. Et voici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend, et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons les requêtes que nous lui avons demandées. Alors, dans quelle mesure sommes-nous confiants après avoir prié? Nous levons-nous, en quelque sorte, nous dépoussiérons-les, j'espère que Dieu répondra à cette prière. J'espère qu'il l'a même entendue. Je me demande s'il va vraiment le faire pour moi. Dans quelle mesure sommes-nous confiants après avoir parlé à Dieu? Nous commençons à voir l'importance de ne pas seulement savoir prier, ou même connaître les composants de la prière modèle, mais de la porter à un autre niveau. Une dernière. Est-ce que nous bégayons? Est-ce que vous bégayez quand vous priez? Matthieu 6, retournons là-bas. Matthieu, chapitre 6. Est-ce que vous bégayez quand nous prions? Matthieu 6, encore une fois, juste un excellent chapitre si vous voulez apprendre sur la prière. Matthieu, chapitre 6, nous le relèverons dans le verset 6, mais toi, quand tu pries, encore une fois, en supposant que tu le fais déjà, entrez dans votre chambre, et quand vous aurez fermé votre porte, priez votre Père qui est dans le secret, et votre Père qui voit le secret vous le rendra. Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme le font les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus pour leur grand discours. Répétition vaine signifie bégayer. Cela signifie bégayer. Maintenant j'avais l'habitude de bégayer. J'avais un problème de bégaiement, et c'était un peu mineur, mais cela arrivait au pire moment. Et je me débattais, je ne pouvais pas vraiment commencer mes phrases. Je saurais donc ce que je voulais dire, mais je n'arrivais tout simplement pas à le dire, et c'était frustrant. Je ne pouvais pas le faire. J'ai eu du mal à commencer des peines. Croyez-le ou non, à un moment donné, je ne pouvais pas commencer des peines. Quoi qu'il en soit, vous l'obtiendrez plus tard. Donc, mais je me débattais avec le bégaiement. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine parler. Maintenant, il y a différents types de bégaiements. Il y a des bégaiements comme moi, ceux que je viens de décrire, où on ne peut tout simplement pas faire sortir les mots, mais il y a des bégaiements quand on répète constamment la même chose. Est-ce que nous bégayons quand nous prions? Pensez-vous que Dieu veut vous entendre bégayer dans la prière, surtout si vous pouvez l'aider? Voulez-vous entendre quelqu'un bégayer exprès quand il vous parle? Non. Non, cela vieillirait très, très vite. Le but de la prière, frère, et non seulement d'attirer l'attention de Dieu, mais aussi de garder son attention. C'est le but. C'est pourquoi nous prions. Nous voulons obtenir et garder l'attention de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons prier tous les jours. Nous pouvons prier, tous les composants, mais nous pouvons toujours manquer la marque. Jacques 4. Jacques, chapitre 4. Nous pouvons prier constamment, mais nous manquons toujours la cible. Nos prières peuvent être inefficaces. Nous ne parlons pas de ne pas prier. Nous prions, nous parlons de prier de façon inefficace. En d'autres termes, la prière est une perte de temps. Jacques, chapitre 4, prenez-le au verset 2. Jacques 4, verset 2, vous convoitez, et vous n'avez pas, vous tuez, et, vous, désirez avoir, et ne pouvez obtenir, vous vous battez, et faites la guerre, cependant vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez, et ne recevez pas, parce que vous demandez mal à propos, pour que vous puissiez consumer votre requête sur vos convoitises. Et ces versets se réfèrent tous à plusieurs choses, mais c'est certainement parler aux frères, ceux avec l'Esprit de Dieu, et c'est aussi parler de la prière. Quand je vois le mot « maladroit », je me dis qu'on peut prier « maladroit ». Je pense qu'on rate la cible. On vise quelque chose et on rate la cible. C'est un oubli. Ce n'est pas là. Mais quand on regarde le sens derrière le mot, c'est en fait pire que cela. Le mot signifie mal. C'est donc comme si on manquait beaucoup. Vous savez, vous avez une cible et vous visez l'œil du taureau et non seulement vous ne touchez pas l'œil du taureau, mais vous avez raté toute la cible. La flèche, peu importe ce que vous tirez, ne touche même pas la cible, n'importe où sur la cible, encore moins dans l'œil du taureau. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que nos prières soient vues de cette façon par Dieu. Manquer mal, être hors cible, tomber complètement à plat. Sinon, c'est juste, c'est une perte de temps. Nos prières doivent être différentes. Jacques 5. Jacques, chapitre 5. Vous devriez être juste là. Jacques, chapitre 5. Quand vous regardez le verset 14, Jacques 5, 14, il parle de la prière d'un ministre. Alors vous imaginez un serviteur de Dieu, un homme ordonné, et il prie, vous penseriez, oh là là, ces prières doivent être efficaces. Et il y a beaucoup sur la ligne. Et quand vous regardez dans le contexte, là, la prière efficace d'un ministre peut sauver les malades. Une personne peut être guérie en se basant sur les prières efficaces du ministre. Et cela peut aussi conduire à Dieu pardonnant cette personne. Donc, cette prière doit être assez efficace. Elle doit être très importante. C'est la prière d'un pasteur. Qu'en est-il de la prière du chrétien moyen? Verset 16, confessez vos fautes les unes aux autres, et priez pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente efficace d'un homme juste sert beaucoup. La prière fervente efficace d'un homme juste sert beaucoup. Cela ne se limite pas à un ministre, qui parle du chrétien moyen, homme et femme. La prière fervente efficace est active. C'est une prière active. C'est ce que ce mot signifie. Il y a deux mots, mais c'est un mot. C'est actif. La prière active est énergisée. Il est de l'énergie, de la force derrière lui. Il est sur la cible. Il n'est pas fade. Il n'est pas austère. Il n'est pas plat. Il ne manque pas d'énergie ou de passion. Ce genre de prière, de la part d'une personne juste, a beaucoup d'effet. Elle atteint la cible. En a beaucoup signifie exercer la force. Continuons à lire, ici, dans le contexte, verset 17, Élie, Élias était un homme soumis aux mêmes passions que nous, ainsi Élie était comme nous. C'est le but. C'est ce que dit la Bible. Il est comme nous. Il n'est pas un surhumain, un super-héros. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Imaginez prier, et il ne pleut pas avant le 19 décembre 2024. C'est long. Regardez en arrière, le 19 décembre 2017. C'est une prière efficace, puissante, puissante. Verset 18, et il pria encore, heureusement, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il a encore prié, et cela a eu un impact tout aussi important. Peut-être même un impact plus important, parce que maintenant, la pluie était nécessaire après 3 ans. C'est une prière qui est efficace. Cette prière, sa prière, avait une force derrière elle. Il a prié et quelque chose s'est produit. Dans ce cas, il a cessé de se produire, ce qui était la pluie, et puis il est arrivé à nouveau, quand il a prié à nouveau. Aucun de nous, frère, je ne suis pas ici en train de dire qu'aucun de nous va prier pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans. Notre service d'aménagement paysager n'aurait plus de travail, entre autres problèmes. Je ne suis pas ici pour dire, d'accord, prions tous pour qu'il ne pleuve pas. Mais le fait est que nos prières peuvent être tout aussi efficaces pour les choses qui se passent dans nos vies. Elles peuvent l'être. Elles peuvent l'être. Cet exemple a été mis là pour une raison. Il a été mis là pour une raison. Nos prières peuvent être tout aussi efficaces, si nous savons comment les énergiser. Comment ils peuvent avoir la force et avoir le pouvoir derrière eux. Donc, nous allons commencer à partir de la fondation ici, Ésaïe 59. Ésaïe 59, nous allons commencer au début du chapitre. Ésaïe 59. Ce sont, frères, quelques versets fascinants que nous allons examiner. Regardez, ou voici, la main de l'Éternel n'est pas raccourcie, elle ne peut pas sauver, ni son oreille lourde, qu'elle ne peut entendre. Ainsi Dieu est capable. Il est un être capable, donc son bras n'est pas trop court et il peut nous sauver. Il peut nous entendre, ou il peut nous sauver quand il nous entend. Il a la capacité d'entendre. Verset 2, « Mais vos iniquités se sont séparées entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont caché sa face de vous qu'il n'entendra pas. » Dieu ne peut pas répondre à une prière qu'il n'a jamais entendue. C'est impossible. Il ne peut pas répondre à une prière qui n'atteint pas ses oreilles. Proverbe 15. Regardons cela de plus près. Proverbe 15. Verset 8. Proverbe 15. Verset 8. Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix des méchants est en abomination à l'Éternel, mais celui qui suit la justice, mais il aime celui qui suit la justice. Frères et sœurs, nous, cela fait référence aux méchants, mais c'est une leçon pour nous tous, nous ne pouvons pas simplement faire ce que nous voulons, puis prier et attendre que Dieu y réponde. Ça ne marche pas comme cela. Descends au verset 29. L'Éternel est loin des méchants. Pour revenir au verset précédent d'Ésaïe, l'Éternel est loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Alors nous voyons encore une fois, l'iniquité, le péché, nous sépare de Dieu, mais il entend ceux qui sont justes. Passons à la version du Nouveau Testament de ceci, de ce verset, Jean 9. Jean 9. Ce n'est certainement pas un concept de l'Ancien Testament, ce n'est qu'un concept biblique, ce dont nous discutons. Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Maintenant nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, c'est-à-dire, c'est clair. De toute évidence, l'auteur de ce livre, Jean, a lu ces versets dans l'Ancien Testament. Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un est un adorateur de Dieu et fait sa volonté, il l'entend. Vous savez, nous parlons de péché, nous séparons de Dieu. Et si vous n'êtes pas juste, il ne vous entend pas, mais ce n'est pas le point. Le fait est que Dieu veut nous entendre. Il écoute pour nous. Il veut entendre de nous tous ses enfants. Mais pas si nous rejetons ses commandements. Il ne peut pas entendre cela. Il ne peut pas être proche du péché. Il ne veut pas entendre que. Mais Dieu veut nous entendre. Allons à quelques endroits dans les psaumes qui parlent de cela, parlons de cela. Psaume 45. Psaume 45, verset 17. Psaume 45, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et saint dans toutes ses œuvres. L'Éternel est proche d'eux, de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Dieu est donc proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplira le désir de ceux qui le craignent, il entendra aussi leurs cris et les sauvera. Dieu le Père veut entendre de nous. Il est proche de ceux qui sont justes, ou font les choses qu'il veut que nous fassions. Psaume 34. Psaume 34, ramassez-le dans le verset 15. Psaume 34, verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et il entend et voit, et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour couper leur mémoire, pour retrancher de la terre leur mémoire. Les justes crient, et l'Éternel les entend, et les délivre de toutes leurs peines. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont d'un esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais l'Éternel les délivre de ou par, nous n'évitons pas toujours les épreuves, mais par elles toutes. Dieu est accessible. Il est près de nous. Il veut entendre de son peuple. Il nous encourage à lui parler. Il y a des conditions qui sont là, mais il nous encourage à lui parler, et il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous livrer à travers tous les problèmes que nous avons. Mais verset 18, nous y retournons, verset 18 met en place un des éléments de la prière énergisée. Nous avons commencé par cette piste, et elle met en place l'un des éléments de comment nous pouvons avoir une prière énergique et efficace. Mais avant d'y aller, ne laissons pas se perdre sur nous que Dieu entende les prières des justes. Les prières ferventes et efficaces de l'homme juste profitent beaucoup. Remarquez maintenant juste. Cela signifie équitable, innocent et saint. Cela ne veut pas dire parfait, autrement, nous le ferions, aucune de nos prières ne serait entendue, jamais. Cela ne veut pas dire parfait, mais cela veut dire juste. Encore une fois, c'est équitable, innocent et saint. Une personne juste s'efforce de faire ce que Dieu dit. Ils font tous les efforts pour faire ce que Dieu dit, et cette personne juste espère que Dieu fait ce qu'ils disent. C'est ainsi que cela fonctionne. Mais cette idée d'avoir des prières énergiques, retournons au verset 18 du psaume 34, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont d'un esprit contrit. Donc, Dieu est proche de ceux dont le cœur est brisé, dont l'esprit est contrit. Il y a de la passion quand votre cœur est brisé. Quand on est contrit, il y a de l'émotion. Il y a de l'énergie. On est déjà dans un état émotionnel. C'est important. C'est un point de départ important. Cet esprit contrit, dont nous allons parler plus ici, c'est le premier de plusieurs éléments, frères, que nous pouvons faire une partie de notre prière qui peut les rendre plus énergisés, et les rendre plus passionnés, les rendre finalement plus efficaces. Ésaïe 66. Regardons plus à cet esprit contrit. Ésaïe. Ok, un autre verset fascinant ici. Cela vous semblera familier. Nous venons de le lire, une version plus tôt. Ésaïe 66, verset 1, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied, où est la maison que tu m'as bâtie? Et où est le lieu de mon repos? » Je suis toujours fasciné d'entendre parler de la demeure de Dieu, son trône, imaginer à quoi il doit ressembler. Pensez à la nouvelle Jérusalem. Vous savez, C'est la ville qui va descendre, et le Père et Christ, nous tous, finirons par y habiter. Pensez à la beauté de la ville. Cette ville descend du ciel. Il y a donc une version, où elle est là maintenant, et nous avons un aperçu de ce à quoi elle ressemble. Si vous allez à l'Apocalypse 21, elle parle de rues d'or, et de fondations avec toutes sortes de joyaux en elles, et ses portes perlées, les portes perlées, comme le monde le remarque souvent. Mais là, la Bible parle de portes de perles. Et ce n'est que cette ville étonnante dans laquelle Dieu habitera et demeure évidemment dans une version maintenant. Quand vous y pensez comme cela, et que vous lisez ce verset, « Où est mon lieu de repos ? » Ou « Où est la maison que vous m'avez construite ? » Où est mon lieu de repos ? Les hommes ne peuvent pas vraiment faire grand-chose pour impressionner Dieu. Quelle sorte de maison pouvons-nous construire Dieu, alors que c'est la description de ce que nous lisons dans l'Apocalypse ? Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire pour obtenir, vraiment attirer son attention. Verset 2, Ésaïe 66, 2 Car tout cela est fait par ma main. J'ai fait tout cela. Tout ce que vous allez m'apporter pour construire ma maison, j'ai fait tout cela. Et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel, mais à cet homme, où l'homme n'est pas là, mais à cela je regarderai, même à celui qui est pauvre, et d'un esprit contrit, et tremble à ma parole. Ce qui impressionne Dieu est un esprit contrit, et une personne qui le craint. Cela attire son attention. Cela l'impressionne. De toutes les choses de l'univers, pensez à l'univers entier, à toutes les choses de l'univers qui retiennent l'attention de Dieu, c'est quand une personne est humble et contrite, et le craint. Pensez à cela. Pensez à cela. Ésaïe 57. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut et Très-Haut, c'est Dieu, qui habite l'éternité, oh là là, Dieu habite l'éternité, dont le nom est saint, je demeure dans le lieu et saint, avec celui qui est d'un esprit contrit et humble, pour ranimer l'esprit des humbles, et pour faire revivre le cœur des contrits. Dieu dit, je vis dans le haut lieu saint. Je demeure dans l'éternité. Vous avez déjà lu l'environnement dans lequel je vis. C'est là que je vis, mais je vis aussi avec une personne contrite, qui a besoin d'être ranimée. C'est-à-dire, oh là là, je vis aussi avec lui d'un esprit contrit et humble. Ces choses sont mises sur un pied d'égalité. Dieu veut vivre avec ceux qui sont bas, et plus important encore, qui sont bas et se considèrent comme bas. Vous pouvez être bas, mais pensez que vous êtes haut. Mais, vous êtes bas et vous savez que vous êtes bas, Dieu veut demeurer avec vous, veut demeurer avec toute personne dans cet état. Le haut est haut. Jean 14, 23 parle du Père et du Christ faisant leur demeure avec nous, voulant vivre avec nous, c'est-à-dire, si nous sommes contrits, pauvres d'esprit, cœur brisé. Contrite signifie frappé, mutilé, abattu, écrasé en poudre. Pensez à une pierre ou à une roche qui est écrasée jusqu'à ce qu'elle devienne de la poudre. C'est ce mot, contrite. Nos prières, frères, doivent refléter cette attitude, et si elles le font, elles sont plus énergiques. Elles ne sont pas seulement fades. Dieu, regardant sa montre. Dieu choisit les gens qui sont très capables de ce genre de prière. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Dieu choisit les personnes qui sont très capables des types de prières que je décris. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset familier ici. Il est bon d'être rappelé de ceci de temps en temps. 1 Corinthiens 1, ramassez-le dans le verset 26. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Allons, commençons par le verset 26, ainsi les 1 Corinthiens 1, 26, car vous voyez votre appel, frères, que peu de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles, ne sont appelés. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses puissantes, et les choses de base du monde, et les choses qui sont méprisées, Dieu a choisi, oui, ces choses qui ne doivent pas faire disparaître les choses qui sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie en sa présence. C'est nous tous. Ce que je viens de décrire, c'est nous tous. Frères et sœurs, nous sommes très capables du genre de prière dont nous parlons. Nous avons des problèmes, ou du moins, en sortant du monde, nous l'avons fait. Nous ne sommes pas les, les spéciaux du monde, les élites du monde. Ce n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes le genre de personnes qui peuvent prier les prières des gens au cœur brisé. Nous sommes les faibles. Nous sommes la base. Nous ne sommes pas censés rester ainsi, et c'est en fait l'un des avantages de prier efficacement pour ne pas rester ainsi. Mais nous sommes tout à fait capables du genre de prière que je décris. Nous devons simplement le reconnaître et nous en souvenir. Si et quand nous arrivons à comprendre qui nous sommes, surtout ce que nous étions quand Dieu nous a appelés, nous sommes capables de ces prières contrites. Deuxième roi 20. Frères et sœurs, nous pouvons tous prier le genre de prières qui sont énergisées et qui impressionnent Dieu. Deuxième roi, chapitre 20. Voici juste, voici un exemple d'une prière puissante et efficace. Deuxième roi, chapitre 20. Cette prière contrite attira l'attention de Dieu. Deuxième roi, chapitre 20. Nous lirons ici plusieurs versets. En ces jours-là, Ézéchia était malade jusqu'à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui, et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, arrange ta maison, car tu mourras et tu ne vivras pas. » Oh là là! Le prophète vient à vous et, ainsi dit le Seigneur, mettez de l'ordre dans votre maison. Mettez de l'ordre dans vos affaires, vous allez mourir. Verset 2. Et Ézéchia tourna son visage vers la muraille, et il pria l'Éternel, en disant, « Je te prie, Éternel, de te rappeler maintenant comment j'ai marché devant toi dans la vérité et avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. » Et Ézéchia pleura fort. Cet homme pleurait fort. Je le serai aussi. Le prophète est venu et m'a dit de mettre de l'ordre dans mes affaires, Dieu dit que je vais mourir. Comment revenez-vous de cela? Comment empêchez-vous cela? Comment tournez-vous cela? Qui est plus haut? Qui est plus puissant à Dieu, que Dieu, pour tourner cela? Ézéchia a pleuré fort. Verset 4, que s'est-il passé? Et il arriva que, avant qu'Ésaïe ne fût sorti, de la cour du milieu donc, il n'était même pas encore sorti de la cour du milieu, de livrer les nouvelles. Que la parole de l'Éternel lui fut adressée, en disant, « Tourne-toi de nouveau, et dis à Ézéchia, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, et, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, et, j'ai vu tes larmes, regarde, voici, je te guérirai, le troisième jour, tu iras à la maison de l'Éternel. » C'était une prière efficace. L'homme n'a même pas reçu, le prophète n'est même pas sorti de la cour du milieu, Dieu dit, « Retournez-vous. » Le prophète se dit, « Faites demi-tour. » Mince, est-ce que je vais annoncer d'autres mauvaises nouvelles? Qu'est-ce que je vais dire? Dis-lui que j'ai changé d'avis. C'était une prière efficace. Cet homme a pleuré. C'est contrit, c'est brisé. C'est une prière qui avait de l'énergie, qui avait du pouvoir. C'était efficace. C'était efficace. La façon dont c'est écrit, c'est comme si Dieu avait changé d'avis. Vous vous demandez, est-ce qu'il l'a vu prier comme, « Oh là là, il prend ça pire que je ne le pensais. » Je vais changer d'avis ou peut-être qu'il voulait simplement voir ce qu'il allait faire. Tu as une condamnation à mort, Où tu as, tu sais, tu vas mourir, eh bien, je vais juste voir ce qu'il va faire. » Il a prié, il a pleuré, et Dieu a changé d'avis. C'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire. Les prières contrites font bouger Dieu. Et c'est le premier de plusieurs éléments pour dynamiser la prière. Un autre. Frères et sœurs, nous devons être prêts à supplier Dieu, Matthieu 9. Matthieu 9. Nous devons être prêts à supplier Dieu. Matthieu 9, nous le prendrons au verset 35. Comme nous l'avons déjà vu, vous devez avoir un cœur brisé ou un esprit contrit et humble, mais nous devons aussi être prêts à supplier Dieu. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais quand il a vu les multitudes donc, d'accord, il guérit et il aide tous ces gens, il aide ces gens ici. Vous pouvez presque l'imaginer maintenant tournant et voyant les multitudes. Vagues de personnes venant, cherchant de l'aide. Voyant ce qu'il a fait, et voulant l'aide. Juste des ordres et juste beaucoup, beaucoup de gens qui viennent pour obtenir l'aide qu'il offre. Mais quand il vit la foule, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils s'évanouissaient et étaient dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, dit-il à ses disciples, la moisson est vraiment abondante, donc tout ce travail qui doit être fait, il y a beaucoup de travail à faire. La moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a que moi et juste, vous tous, mais c'est moi. C'est juste, ce n'est qu'un petit groupe de nous. Priez donc le Seigneur de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ce mot, prier, là, signifie supplier. Il dit à ses disciples, priez Dieu d'envoyer de l'aide. Tous ces gens ont besoin d'aide. Priez Dieu. J'ai lu ce verset de nombreuses fois, je l'ai entendu de nombreuses fois. Je suis sûr que vous devez le faire. Je ne l'ai jamais tout à fait compris de cette façon. Quand vous et moi prions pour un ministre, prions pour que les ministres de l'Église aillent faire l'œuvre, Dieu dit de le supplier pour cela. La moisson est abondante. Il n'y en a que quelques-uns pour faire le travail, juste quelques-uns pour faire le travail. Priez Dieu qu'il fasse quelque chose à ce sujet. Maintenant, si vous êtes comme moi, en train de penser à supplier, vous savez, on m'a toujours dit, ne mendie jamais, fils. Ne mendie jamais. Quand on est enfant, on n'est pas censé mendier. On n'est pas censé ramper. Mais le mot, là, c'est mendier. Cela peut aussi signifier, et c'est le vrai sens de la mendicité, mais demander avec toute sincérité, demander avec ferveur, et demander avec urgence. Ramenez-le au contexte. Demandez avec ferveur et urgence à Dieu pour les ouvriers pour la moisson. Suppliez-le. Quand vous mendiez quelque chose, vous le voulez vraiment. Luc 8. Luc 8. C'est un exemple terrible, et en même temps, un excellent exemple que je vais lire. Luc 8. Vous verrez ce que je veux dire. Un exemple terrible, mais en même temps, un excellent exemple, donc, je vais le lire. Luc, chapitre 8. Prenez-le dans le verset 26. Luc, chapitre 8, verset 26. Ils arrivèrent au pays des Gadamériens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand il fut descendu à terre, il rencontra de la ville un homme qui avait des démons depuis longtemps, et qui ne portait point de vêtements, et qui ne demeurait dans aucune maison, mais dans les sépulcres. Donc cet homme avait des démons, il était nu, et il vivait dans le cimetière. Ce n'est pas bon. Pas bon. Et quand il est allé à terre, c'était 27, allons et 28, et quand cet homme vit Jésus, il cria, et se jeta devant lui, et dit d'une voix forte, « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, Fils du Très-Haut ?» Alors, cet homme nu voit Christ, il court, il tombe. « Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, Christ, Fils de Dieu ?»« Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Ce mot, « supplie », est exactement le même mot que « prie » qui était dans les autres versets que je viens de lire. Les traducteurs auraient pu tout aussi bien écrire « prier ». Cet homme suppliait Dieu, ou ce démon, ces démons étaient, suppliaient Dieu de ne pas les tourmenter. Frères et sœurs, nos prières ont-elles cette énergie? Vous voyez pourquoi c'est un exemple terrible, vous savez, comparez nos prières aux prières d'un démon, mais pensez à quel point ce démon ne voulait pas être tourmenté. Il implore Dieu, il supplie Dieu de ne pas le faire, de ne pas le tourmenter. Dieu veut cette même énergie de nous quand nous prions. Regardez en arrière et avec une voix forte, il est tombé avant lui, cet homme n'était pas gêné. Il est tombé devant lui et il a supplié Dieu de ne pas le tourmenter, de le tourmenter. Dieu veut que, ce genre d'énergie de nous quand nous prions. Voilà le genre de prières qui font une différence. Luc 21. Disclaimer, frères et sœurs, s'il vous plaît ne courez pas nous demander à Dieu, implorant Dieu. Donc, un peu d'humour là, mais il est toujours bon de mettre un peu de contexte avec elle, mais vous voyez la passion qui était là. Luc 21. Allez-y moi-même. C'est un petit quelque chose que nous pouvons relire à un peu plus que le gars dans le cimetière. Luc 21, 36, très familier, veillez donc et priez toujours. Laissez-moi donc le lire d'une autre façon. Veillez donc, et priez, priez Dieu, afin que vous soyez toujours dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Nous devons donc surveiller et supplier toujours. Cela change le ton, n'est-ce pas? Vous savez, nous devons veiller et prier, mais cela signifie veiller et supplier afin que nous puissions être jugés dignes. Supplier Dieu. Le faire avec ferveur et urgence, en toute sincérité. Remarquez le mot « cela ». Ainsi, veillez et priez toujours que signifie en conséquence. Donc, cette prière touche à sa fin. Si vous observez et implorez Dieu de façon appropriée, vous pourrez échapper à toutes ces choses qui arriveront. Si vous regardez vers le haut, versets 10 à 18, vous lisez toutes les choses qui vont arriver que nous puissions échapper si nous observons et supplions Dieu correctement. Digne, là, signifie être tout à fait méritant. Est-ce que nos prières, telles qu'elles sont, nos prières actuelles, lorsque nous obéissons à ce verset, sont-elles dignes des prières que nous offrons à Dieu? Est-ce qu'ils, sont-ils quelque chose qui serait considéré comme entièrement, ou nous laisser tout à fait méritant d'échapper à toutes ces choses? C'est une barre élevée. Cela rend les choses réelles. La barre est haute. Nos prières sont-elles assez dignes pour nous permettre de nous échapper? Elles peuvent l'être. Elles peuvent l'être, mais le sont-elles? Dans le démon, dans sa prière, ses démons et nos prières de fin des temps, ont été conduits par une incitation. Parfois, nous avons besoin de cette incitation à supplier Dieu. On peut être complaisant. Tout va bien, nous sommes dans la routine, mais parfois nous avons besoin de cette incitation à voir cette urgence de prier avec ferveur Dieu pour certaines choses. Ce ne sont pas toutes les prières, loin de là, mais ce devrait être certaines de nos prières. Les êtres humains doivent parfois être incités à prier au niveau de la mendicité. Osée 7. Regardons un exemple rapide de ceci. Osée 7. Osée, chapitre 7, verset 13. Osée, 7, 13. Malheur à eux. Car ils se sont enfuis pour moi, ils leur ont fait du mal parce qu'ils ont péché contre moi, Je les ai rachetés, mais ils ont dit des mensonges contre moi. Et ils ne m'ont pas crié du cœur, alors ils pleuraient, mais ils ne pleuraient pas du cœur. Quand ils hurlaient sur leur lit, ils se rassemblaient pour le blé et le vin, et ils se rebellaient contre moi. Ce sont des prières, frères, qui ne vont pas. L'incitatif était là, ils étaient en dessous, ils étaient persécutés, l'incitatif était là. Mais même quand nous sommes persécutés, nous devons nous assurer que nous crions à Dieu avec notre cœur, retour au premier point. Mais nous pouvons prier, encore une fois, nous pouvons prier et il manque la marque. Mais cette incitation, parfois il faut cette douleur ou la menace de la douleur pour nous de prier la façon dont Dieu voudrait que nous le fassions. Cette approche a fonctionné, travailler avec Christ aussi, Hébreux 5, cette notion de mendicité, ou suppliant, Dieu. Hébreux 5, verset 7, qui, dans les jours de sa chair, parle du Christ, lorsqu'il lui eut offert des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes, le Père, qui fut capable de le sauver de la mort, et qui fut entendu en cela qu'il avait peur. Christ implore, ou supplie, Dieu de l'aider à traverser ce qu'il allait devoir traverser. Sa prière avait de l'énergie. Il voulait pouvoir, pour traverser ce qu'il allait avoir à vivre en notre nom. C'est une prière passionnée. Christ, c'est-à-dire Christ. Cette volonté de supplier Dieu nous permet d'animer nos prières. Nous cherchions à avoir un cœur brisé et contrit, étant pauvres d'esprit, mais aussi désireux d'être urge et fervent, et juste le dire, supplier Dieu d'intervenir et de nous aider. Christ a également énergisé ses prières d'une autre manière. Donc, c'est une troisième voie, Jean 17. Christ a offert beaucoup, beaucoup d'excellents exemples de prières. Jean 17, verset 9. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, n'est-ce pas? Nous voyons donc les paroles de la prière. Eh bien, tout d'abord, nous voyons que Christ prie beaucoup. C'est juste que cela me fascine. C'est juste, penser à Dieu dans la chair, prier, il prie tout le temps. Il prie constamment le Père. Il prie toujours. Quel exemple! Quel exemple! Récemment, j'ai eu une personne qui m'a approché et m'a demandé, et il le croit sincèrement, mais il croit sincèrement que le Père et Christ étaient le même être. C'est un sujet un peu différent, mais c'est lié. Je pense que c'est. J'en parle maintenant. Mais eux, ils croient sincèrement en tout leur cœur quand ils lisent l'Écriture, tout leur cœur, quand ils lisent l'Écriture que l'Écriture dit que le Père et Christ sont le même être. Eh bien, des versets comme celui-ci, soufflez cela hors de l'eau. Est-ce que Christ prie à lui-même? Est-ce que Christ est son propre Père? Un fils peut être son propre Père? Alors moi, j'ajoute qu'ici, parce que c'est, il est utile de comprendre. Mais nous voyons un fils, qui parle constamment à son Père, qui prie constamment. Incroyable. Incroyable pour nous de considérer. Mais le mot prier n'est pas supplier. Ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas supplier. Nous l'avons vu plus tôt. C'est un autre mot. Prier, ici, signifie interroger. Dieu veut que nous l'interrogions dans la prière. Je n'y pense jamais vraiment comme cela. Oh là là. Vous savez, tous les interrogatoires auxquels je pense n'est pas quelque chose que je pense que je ferais à Dieu. Mais Dieu veut que nous l'interrogions, dans la prière. C'est intéressant. Lorsqu'on interroge une personne, on pose des questions de façon systématique, successive et parfois agressive. Parfois agressivement. Romains 12 aide à expliquer. Allons à Romains 12. Romains, chapitre 12, verset 12. Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance, patient, réjouissez-vous dans l'espérance, patient dans la tribulation, continuant un instant dans la prière. Maintenant, quand je vois ce mot, tout de suite, j'ai en quelque sorte pensé que cela voulait dire immédiatement, juste prêt à prier immédiatement, et il y a un certain élément à cela, mais d'être instantané, comme un café instantané, comme je le veux, maintenant. Vous savez, être instantané dans la prière, mais cela signifie en fait persévérer, être constamment diligent et persévérant. Persévérer, être constamment diligent et persévérant. C'est ainsi que nous interrogeons Dieu quand nous prions. Nous devons être diligents, et nous devons être persévérants, en parlant à lui. Parfois, frères, nous devons demander des choses à Dieu à plusieurs reprises. Nous avons tous été là. Vous le priez, et vous espérez juste que cela arrive hier, mais non, vous devez le prier et le prier et le prier et le prier. Parfois, on oublie que cela n'est jamais arrivé, alors on y retourne et on prie, on prie et on prie et on prie. Nous devons être cohérents. Nous devons être persévérants. Nous devons interroger Dieu dans la prière. Dieu veut parfois savoir à quel point vous voulez, je veux, ce que nous prions pour. À quel point voulez-vous vraiment? Est-ce commun, sur un coup de tête? S'agit-il d'un achat impulsif? Vouliez-vous vraiment cette barre Snickers? J'espère que vous ne priez pas pour les barres Snickers. Ils les vendent. Vous n'avez pas à prier pour eux. Mais vous savez ce qu'est un achat impulsif, vous pensez simplement que vous le voulez. Mais à quel point le voulez-vous vraiment? Parfois, Dieu veut savoir, à quel point voulez-vous? Nous devons l'interroger, pour utiliser le terme. Si nous interrogeons Dieu dans la prière, il peut nous récompenser. Hébreux 11. Hébreux 11. Dieu veut savoir à quel point nous le voulons. Il veut savoir non seulement combien nous voulons ce pourquoi nous prions, mais combien nous voulons cela, Hébreux 11, verset 6, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit, d'abord, croire qu'il est, qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Cherchez-le avec diligence. Dieu récompense ceux qui le cherchent d'une manière diligente, et non sur un caprice. Donc, nous voulons ce que nous voulons de Dieu, et nous prions avec diligence pour cela et, vous savez, nous le demandons encore et encore parfois, et encore de différentes façons. Eh bien, Dieu veut aussi que nous ayons cette même énergie, et cette même passion en le cherchant, et il dit qu'il est un bienfaiteur. Et vous, quand vous obtenez une récompense, vous obtenez quelque chose. Parfois, c'est quelque chose que vous avez demandé, parfois, c'est quelque chose que vous ne saviez même pas que vous vouliez. Mais combien, frères, cherchons-nous Dieu? Combien le voulons-nous? Pas seulement les choses de lui, pas seulement les choses qu'il peut nous donner. Parce que c'est gentil aussi. J'ai ma liste. Mais à quel point recherchons-nous Dieu lui-même? Une relation avec lui, à quel point recherchons-nous cela, autant que nous cherchons des choses de lui? J'ose dire, si nous le cherchons avec diligence, voici, il peut très bien nous donner ce que nous voulons aussi, que nous avons demandé avec diligence. Nous ferions de même. Nous ne sommes pas différents. Si nous interrogeons Dieu dans la prière, il nous récompensera. Maintenant, la police interroge un suspect, vous avez vu dans les films, et il peut être, devenir assez intense. Tu sais, tu as l'ampoule et tu frappes la table et, tu sais, le bon flic, le mauvais flic. Je veux dire, tu connais toute la scène. Mais, il peut devenir assez agressif. Maintenant, Je ne préconise pas que nous devenons agressifs avec Dieu quand nous prions, c'est-à-dire, c'est pas où je vais. Mais nous pouvons être audacieux. Hébreux 4. Hébreux 4. Nous pouvons être audacieux. Hébreux 4, 16. Venons donc hardiment au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour aider au moment du besoin. C'est donc une prière et nous sommes, il est dit ici, de venir hardiment au trône de grâce pour obtenir ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Donc, ce n'est pas agressif, mais c'est audacieux. On nous dit de venir hardiment. Audacieux, c'est d'être franc, franc, direct, confiant, et non pas, vous savez, de se trémousser. Pour être contrite, bien sûr, cœur brisé, je ne retire pas tout ce dont nous avons parlé, mais nous venons hardiment. Il y a des moments où nous venons avec audace, franchise, franchise, assurance confiante, à notre Père, qui est plus que disposé à nous entendre. Son bras n'est pas raccourci. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Il peut nous entendre. Il veut nous aider. Christ a parlé avec franchise, franchise, assurance et confiance. C'est ce que nous lisons. C'est pourquoi ces paroles ressortent. C'est pourquoi elles sont si différentes, parce qu'elles sont directes et directes. Nous pouvons être de la même manière dans la prière. Nous devrions être de la même manière dans la prière. Nous avons donc envisagé d'être contrits. Nous avons envisagé de supplier Dieu. Nous avons également envisagé d'interroger Dieu. N'est-ce pas? Quelles autres façons pouvons-nous énergiser notre prière? Eh bien, la prochaine façon de s'assurer que nos prières ont de l'énergie est de demander à Dieu. Pétition Dieu. Nous avons tous entendu parler de la signature d'une pétition. Vous avez peut-être même signé une pétition. Nous en avons tous entendu parler. Une pétition est une demande officielle. C'est souvent écrit. Ce n'est pas nécessaire. Mais une pétition est une demande officielle. Et avec une pétition écrite, si vous n'obtenez pas assez de signatures, quoi que vous essayiez d'accomplir, ne passera pas, cela ne fonctionnera pas. Vous devez donc vous y intéresser suffisamment. Donc nos prières, elles doivent être sincères, sincères, audacieuses, implorantes si nous le devons, interrogeant Dieu, mais elles doivent aussi être formelles plus de fois que non. Parfois vous priez et vous êtes dans le moment, mais eux, ils devraient aussi être formels. Parfois, nous devons faire une pétition formelle à Dieu pour obtenir ce que nous voulons, sinon, Dieu pourrait rejeter la prière. Tout comme la pétition a été rejetée, elle l'a été, il n'y avait pas assez d'intérêt. La prière peut être rejetée aussi, si nous ne sommes pas prudents. Premier roi, chapitre 8. Premier roi, chapitre 8. À vrai dire, il faut de l'énergie et des efforts pour garder les choses disciplinées et formelles aussi. Premier roi, chapitre 8. Frères et sœurs, quelle est la forme de nos prières? Premier roi, chapitre 8, juste un verset ici. Les huit premiers rois, 54, lorsque Salomon eut achevé de prier et de prier l'Éternel, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, et se mit à genoux. Les mains étendues jusqu'au ciel. Alors imaginez Salomon, avant de se lever, il est à genoux et ses bras sont levés et les mains tendues vers le ciel. C'est une position de soumission, et une position de demander quelque chose, et d'espérer obtenir quelque chose. Nous savons tous qu'il faut prier à genoux. Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez prier dans n'importe quelle position de soumission, agenouillé à côté de votre lit. Beaucoup trouvent cela confortable. Je trouve cela confortable. Ou vous pouvez vous agenouiller, vous êtes sur votre lit, vos bras sont sur votre lit et vous êtes en mesure de vous soutenir. C'est une façon. Il y a ce que Salomon a fait. Il y a ce que je viens de décrire. Il y a aussi le fait d'être à genoux, d'être plié à la taille et le haut du corps et vers le sol. Cela peut aussi être une façon très confortable de prier, confortable, parce que vous pouvez être là un certain temps. Certains choisissent parfois de se prosterner et de se mettre face contre terre. On ne peut pas tomber plus bas. Tous ces exemples sont des exemples d'une manière formelle, une formalité quand il s'agit de la prière, d'être dans une position de soumission en demandant à Dieu, ou de faire une demande de Dieu. Psaume 5. Un autre élément de formalité. Psaume 5. Verset 3. Psaume 5. Verset 3. Écoute mes paroles, ô Seigneur, considère ma méditation. Écoutez la voix de mon cri, mon roi et mon Dieu, car je prierai pour vous. Nous parlons donc ici d'une prière. Tu entendras ma voix le matin, ô Éternel, le matin je t'adresserai ma prière, et je lèverai les yeux. Ceci décrit une prière le matin. Une prière qui commence votre journée. Lorsque vous priez, lorsque vous vous levez pour la première fois après avoir en quelque sorte perdu la raison, la première chose à faire, ce que cela décrit, c'est de prier. C'est prioriser la prière, chercher Dieu pour sa volonté, et faire vos demandes, mes demandes, connues de lui tôt. Ce n'est certainement pas le seul moment de prier, mais c'est un exemple extraordinaire et une explication à donner à une personne qui se demande simplement, quand devrais-je prier? Quel est le meilleur moment pour prier? Il s'agit de décrire quelqu'un qui donne la priorité à la prière. C'est formel. Ils ont un temps fixe. Imaginez avoir un rendez-vous officiel avec le Père. Un temps où vous savez, vous vous êtes levé après, espérons-le, une bonne nuit de repos, et vous pouvez aller à Dieu, je peux aller à Dieu, et lui demander et le remercier et le supplier, et faire toutes les choses dont nous avons parlé. Mais c'est formel en ce sens que c'est le matin, c'est à un certain moment. Nos prières doivent inclure cela. C'est ainsi que nous demandons à Dieu, informel, de faire une demande formelle. 1 Thessaloniciens 5. Encore une autre façon d'être formel dans nos prières. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. D'abord, Thessaloniciens 5, 17. Trois mots, priez sans cesse. Priez sans cesse. Cela signifie sans interruption, sans omission. En d'autres termes, ne manquez pas. Ne manquez pas. Ne manquez pas votre rendez-vous. Ne manquez pas ce rendez-vous officiel pour parler à Dieu. Est-ce que nous manquons des rendez-vous à l'occasion? Oui. Nous manquons des rendez-vous à l'occasion, mais nous nous efforçons de ne pas manquer de rendez-vous. Priez sans cesse, sans interruption, sans omission. Nous ne pouvons pas omettre le temps de la prière. C'est là que cette cohérence peut venir, c'est là que cette énergie et cette passion peuvent venir. Si nous prions constamment, nous ne manquons pas. Je répète, nous manquons-nous? Nous le faisons, je le fais, mais nous ne devrions pas. Nous devrions prier chaque jour, plusieurs fois par jour. Nous devrions être en contact avec Dieu. Vous devez construire, certains doivent construire pour cela si vous êtes jeune dans la foi. Mais c'est le but, non seulement de prier tous les jours, mais plusieurs fois par jour. Jean 14. Encore un autre élément de formalité. Nous parlons de toutes les voies, frères, que nous pouvons demander à Dieu, de faire une demande formelle. Jean 14. Jean 14. Verset 13. Jean 14. Verset 13. Et quoi que ce soit, c'est Christ qui parle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi nous terminons nos prières par « au nom de Jésus-Christ » ou « par l'autorité de Jésus-Christ », C'est à cause de versets semblables. C'est une formalité nécessaire. Quand nous prions au nom de Jésus-Christ. Il y a des versets qui parlaient d'une époque où Christ devait aller au Père en notre nom. Nous ne pouvions pas nous approcher directement du Père. Maintenant, nous le pouvons. Maintenant, nous pouvons nous approcher directement du Père. Nous n'avons qu'à le faire avec l'autorité du Christ, avec l'autorité de Jésus-Christ. C'est une autre formalité qui devrait figurer dans toutes nos prières. Aussi passionné, et autant que nous mendions et toutes ces choses, et interroger Dieu, nous devons avoir certaines formalités avec nos prières pour s'assurer qu'ils sont entendus, et la prière au nom de Jésus-Christ est l'une d'elles. Ainsi, un dernier moyen, frères, pour dynamiser nos prières, nous pouvons nous tourner vers Matthieu 5. Nous en avons traversé plusieurs. Matthieu 5 est un dernier moyen de dynamiser, ou d'apporter de la passion, de se concentrer, à nos prières. Matthieu 5. Verset 44. Matthieu 5. Verset 44. Mais moi, je vous le dis, c'est Christ. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le mal et sur le bien, et envoie de la pluie sur les justes et sur les injustes. Priez, là, dans 44 est encore un autre mot qui n'est pas interrogateur ou mendiant. C'est un mot différent. Là, c'est adoration, pour adorer. La prière signifie la adorer. Il faut une relation étroite, vénérée et remplie d'adoration avec Dieu pour aimer son ennemi. Ce n'est pas facile à faire, mais si nous adorons Dieu, si nous sommes proches de lui, alors cela devient d'autant plus faisable. L'adoration signifie avoir du respect et de l'adoration. La révérence et l'adoration. Ainsi, lorsque nous adorons Dieu, nous le vénérons et l'adorons. Psaume 103. Psaume 103. Quand vous adorez et adorez, qui va apporter de l'énergie, qui ne va pas être rassis. Cela ne sera pas sans vie. Psaume 1 à 3, verset 1. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, j'ai lu cela plusieurs fois. Mais cela prend maintenant un sens différent. Tout ce qui est en moi, bénis son nom. C'est dire bénir Dieu de chaque once de votre être, toute l'énergie que vous pouvez rassembler pour bénir Dieu. C'est cela l'adoration. C'est cela l'adoration. David bénissait Dieu depuis son centre, depuis le centre de lui-même. Psaume 102, nous devrions être là. Verset 1. Écoute ma prière, ô Seigneur, et que mon cri vienne à toi. Ne me cache pas ta face le jour où je serai dans la détresse, incline ton oreille vers moi, le jour où je t'appellerai, réponds-moi promptement. Car mes jours sont consumés comme la fumée, et mes os sont brûlés comme un foyer. Mon cœur est frappé et desséché comme de l'herbe, de sorte que j'oublie de manger mon pain. C'est une prière, ou un psaume, qui exsude l'être, ou le centre du psalmiste là. Regardons une prière entière. Je la trouve très utile, au fil des ans, je la trouve utile, vous savez, en essayant de grandir et de s'améliorer avec la prière. Lisons simplement une prière. Nous la lirons du début à la fin, psaume 63. Et si vous êtes comme moi, j'apprends par l'exemple et le voir fait à partir de la Bible, ce qui signifie qu'il est juste, c'est la bonne façon de le faire. Alors, psaume 63, lisons toute cette prière. Et en la parcourant, pensons à toutes les différentes composantes dont nous avons parlé. Psaume 63. Nous lirons le psaume entier ici. Ceci est David quand il était dans le désert. Dieu, tu es mon Dieu, de bonne heure je te chercherai, Mon âme a soif de toi, ma chair te désire dans une terre sèche et assoiffée, où il n'y a pas d'eau, pour voir ta puissance et ta gloire, ainsi moi comme je t'ai vu dans le sanctuaire. Parce que ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai pendant que je vivrai, je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses, quand je me souviendrai de toi sur mon lit, et que je méditerai sur toi pendant les gardes de la nuit. Parce que tu as été mon secours, c'est pourquoi à l'ombre de tes ailes je me réjouirai. Des éléments puissants et puissants. Mon âme suit tout près derrière toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent ma vie, pour la détruire, iront dans les parties inférieures de la terre. Ils tomberont par l'épée, ils seront une portion pour les renards. Mais le roi se réjouira en Dieu, quiconque jure par lui se glorifiera, mais la bouche de ceux qui disent des mensonges sera arrêtée. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver des mots, et si vous vous dites, qu'est-ce que je prie? Ce sont des prières que nous pouvons emprunter et appliquer aux choses que vous et moi traversons. Elles sont là, elles sont écrites à cette fin, entre autres. Ceux-ci peuvent nous donner les mots, frères, que parfois nous ne pouvons tout simplement pas rassembler, ou nous entrons dans le piège du bégaiement, et dire les mêmes choses tout le temps, à Dieu. Vous savez, la prière modèle. Des prières comme celle-là, nous devons construire jusqu'à eux. Nous devons y arriver, et parfois, ils sont plus faciles, ils viennent plus faciles quand vous traversez quelque chose, quand vous êtes incité comme nous en avons parlé, ou en temps de chagrin, peut-être vous avez perdu un être cher, les choses ne vont pas bien pour vous au travail, ou quoi que ce soit, les relations, problèmes relationnels. Mais ce sont les sortes de prières, frères, qui ont de l'énergie juste, juste la façon dont je le lis. Et il est facile de le lire de cette façon. Vous pouviez voir la passion et l'énergie qui étaient derrière ces mots. Ce sont les prières, frères, qui émeuvent Dieu. Ces prières font bouger l'aiguille. La prière descend à Dieu qui veut finalement nous parler et qui veut que nous répandions nos cœurs quand nous lui avons parlé, pas fade, pas pourri, pas rassis. Comme nous concluons, si nos prières, frères, sont rottes, ils sont rassis, ils sont plats, ils manquent de passion, juste demander à Dieu de nous aider à les énergiser. C'était le but de ce message, vous aider à énergiser, à nous aider tous à énergiser et à apporter du punch lorsque nous parlons à Dieu. Nous pouvons mettre plus d'énergie et de passion dans nos prières en priant avec, tout d'abord, un esprit pauvre et contrit, pour être prêt à supplier Dieu, et cela signifie lui parler et demander des choses avec toute sincérité, et avec ferveur et urgence. Nous pouvons, occasionnellement, interroger Dieu et qui est de lui poser systématiquement des questions successives, et hardiment. Nous pouvons demander à Dieu. La prière a une certaine formalité, que ce soit d'être en position de soumission, peut-être à genoux ou couché à plat, de prier au nom de Dieu, de ne pas manquer, et enfin, nous devrions, pouvons et devrions adorer Dieu, et c'est avoir une attitude de révérence et d'adoration pour notre Créateur, pour notre Père qui est aux cieux. Souvenez-vous de Jacques 5, 16. La prière fervente et efficace d'un homme juste et de la femme a beaucoup d'effets. La prière doit être efficace et fervente, c'est-à-dire apporter de la force. Frères et sœurs, énergisez vos prières et veillez à ce que Dieu réponde avec bonté.